Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous propose un parcours dans Montpellier. À la fois le Montpellier réel, mais aussi le Montpellier imaginaire, comme depuis 4 ans et demi, le raconte la série « Un si grand soleil », 5 soirs par semaine sur France 2. Vous connaissez ce feuilleton ou pas, vous l'appréciez ou pas. En tout cas, je vous invite tous et toutes à suivre la guide Nathalie Séverin. Nathalie Séverin, merci d'avoir répondu à mon invitation. Guide, le mot va de soi, puisque cette activité est un défi conducteur de votre parcours. Vous allez nous entraîner à votre suite dans les coulisses du feuilleton « Un si grand soleil ». Nous allons profiter de votre travail de recherche. Votre mémoire de Master 2 Information Communication s'intitule « Étude de la série télévisée Un si grand soleil et de la manière dont elle valorise Montpellier, Méditerranée, Métropole ». Vous allez nous en présenter les points saillants. Mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier. Donc vous êtes une Montpelliéraine pur jus. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Alors, merci pour votre invitation. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Donc moi, je suis effectivement Montpelliéraine de naissance et de cœur. Même si j'ai vécu de nombreuses années ailleurs, je me suis toujours revendiquée Montpelliéraine pendant toute ma vie.
Ah, vous portez toujours le drapeau.
J'ai porté le drapeau. J'ai vécu en Lorraine, on me disait « D'où es-tu, Montpellier ?» Ça a toujours été voilà, ma ville de cœur et d'envie. Et en fait, je suis née dans le quartier des Aubes où vivaient mes grands-parents. Et donc, j'ai passé toutes les vacances de ma vie à Montpellier, dans ce quartier où je partais déambuler avec mon grand-père. On partait à pied, on allait soit au marché des Beaux-Arts, soit on remontait par le Pilat Saint-Gély, la rue de l'Aiguillerie, vers le marché Jean Jaurès. On allait faire nos petites courses, on buvait notre petit café Mantalo sur la place de la Comédie, au Café Riche. Enfin voilà, j'ai ces repères-là qui sont ancrés en moi et qui ont créé chez moi un désir de toujours revenir à Montpellier et de m'installer enfin, définitivement, j'ai peut-être, à nouveau à Montpellier.
Un attachement. Donc.
Un attachement viscéral.
Très bien. Bon, parfait. Alors, vous avez évoqué quelques lieux. Et qu'est-ce que vous aimez plus également à Montpellier? Et peut-être aussi, qu'est-ce que vous aimez moins? En tout cas, voilà. Le regard à la fois de la Montpelliéraine bien enracinée, mais peut-être aussi le regard de la chercheuse avec un peu de distance sur cette ville.
Alors, ce que j'aime particulièrement, quand on a vécu en Lorraine et en Bourgogne, dans le Morvan et dans des zones avec un climat un petit peu moins séduisant, voilà, Montpellier, c'est une ville où il fait bon vivre par le climat. On peut vivre dehors la majorité du temps. Ce que j'aime, c'est me promener dans la ville, déambuler, l'été. Terrasse. Et puis, la fan de culture que je suis et de patrimoine, puisque mon parcours, on en reparlera peut-être, c'était aussi sur cet aspect-là, est ravie à Montpellier, parce qu'il y a une énorme richesse, à la fois du patrimoine ancien, de la ville contemporaine, qui pousse et qui est tout à fait remarquable dans la manière dont elle évolue. Et voilà, donc... cette qualité de vie en fait qu'on a, et puis cette offre culturelle, le fait que même s'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de Montpelliérains de souche forcément, mais cette mixité,
ce brassage.
Ce brassage de population de gens venus de partout et qui s'attachent à Montpellier et qui s'y ancrent finalement pour y faire leur vie, je trouve ça très dynamique, très enthousiasmant.
Alors sur un mode moins positif. peut-être pour vous donner un autre point d'appui à la réponse, ces dernières années, la ville et la métropole ont beaucoup grandi, croissance rapide. Hein, bon, en gros, on arrive à 300 000 habitants pour Montpellier, 500 000 pour la métropole. Quel regard portez-vous sur cette mutation?
Moi, ça m'enthousiasme, en fait. J'ai pas de... Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, forcément, comme tous les Montpelliérains qui vivent au centre ou dans la première périphérie, je subis de plein fouet les travaux.
Quelques soucis circulatoires.
Mais je suis prête à passer ce cap et à patienter 2 ans parce que je pense que voilà, c'est nécessaire et que moi, je suis tout à fait positive à cette évolution. Alors peut-être que voilà, ça va falloir calmer un peu. On va pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Pour le moment, je trouve que ces nouveaux quartiers qui se créent sont dynamiques, sont vivants. Voilà, moi, je fais de temps en temps des visites dans le quartier Port-Marianne. Je trouve que c'est une réussite. J'aime aussi aller dans ce quartier-là, passer des soirées, fréquenter les bars et les restaurants du coin.
En tout cas, vous ne vivez pas cette évolution comme d'autres Montpellierains qui se disent un peu dépossédés de leur ville, hein, comme si, ces changements assez importants, de tous ordres, hein,
oui,
urbanistiques, hein, économiques, humains, ils les vivent négativement, ce n'est pas votre cas?
Pas du tout. Non, bah, il faut que ça évolue, il faut que ça... Enfin, une ville qui stagne, c'est une ville qui meurt. Enfin, non, il faut que ça bouge.
Alors, donc, du coup, quand vous avez des amis ou des parents qui viennent à Montpellier, qui connaissent peu ou pas la ville, c'est ce que vous leur dites, là, quand cette flamme pour Montpellier que les auditeurs peuvent percevoir. Voilà, parce que, bon, bien entendu, toute ville, c'est un des sujets qu'on va aborder, porte en elle bon, une image, voire bien un sûr. Imaginaire... Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre que ça vaut le coup qu'ils viennent passer quelques jours ici?
Alors déjà, je leur propose de regarder un ou deux épisodes d'Un si grand soleil.
Ah.
Non, je plaisante, mais pourquoi pas? Ça pourrait être une porte d'entrée. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a non seulement la ville elle-même qui est séduisante, qui est dynamique, qui est agréable à vivre, donc je les promène un peu partout. Et puis, on est quand même très vite à la mer. On est très vite dans l'arrière-pays, dans des paysages absolument magnifiques. C'est pas pour rien que les tournages se multiplient ici, parce qu'on a des décors fabuleux qui sont à la fois beaux, esthétiques à l'écran, mais qui sont à vivre encore mieux.
Et peut-être moins usés, je dirais, que d'autres paysages, pas à Côte d'Azur par exemple.
Voilà, à Côte d'Azur, mais après, bon, ça peut aussi finir par devenir problématique peut-être. Et on a de plus en plus de monde qui vient, l'attraction du territoire est forte. Mais bon, pour le moment, enfin, moi, je suis enthousiaste de partager, à l'idée de partager ce territoire et de le faire connaître.
Alors, poursuivons ce partage, puisqu'on a déjà abordé le sujet qui nous a rapprochés et qui vous permet de s'adresser à nos auditeurs. Alors, vous le dites vous-même, reprendre des études à la veille de ses 50 ans à un niveau expert, dans une discipline théoriquement inconnue, fut un challenge difficile, mais une aventure enthousiasmante. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans cette nouvelle voie? Vous n'arriviez pas de la Lune, bien entendu, mais là, il y avait quand même un enjeu particulièrement important et novateur.
Donc, je suis historienne de l'art au départ, guide conférencière. J'ai eu un parcours de guide conférencière. Alors, malheureusement, pas à Montpellier.
À Nîmes.
En Bourgogne et beaucoup des années à Nîmes. Hein, et j'ai eu l'opportunité, effectivement, de travailler à Nîmes pendant 15 ans pour l'Office de tourisme, pour les services du patrimoine et pour les musées. Et j'ai notamment, pendant les cinq dernières années de cette carrière-là, travaillé au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une galerie d'art au centre-ville de Montpellier, une affaire familiale d'Aigues Mortes. On a souhaité faire une petite succursale quartier Saint-Roch. J'étais ravie de trouver un local quartier Saint-Roch, qui est un de mes quartiers quand même favoris aussi. Très vivant, très dynamique, etc. Et l'affaire a bien démarré. Et puis finalement, alors peut-être un peu avec la crise des Gilets jaunes, peut-être un peu avec la conjoncture globale, ça a moins bien marché et en fait, je m'ennuyais un petit peu. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a toujours travaillé dans la découverte de nouveaux sujets, la recherche documentaire, donc un travail très intellectuel qui ne trouvait pas satisfaction totalement dans la vente d'objets d'art, même si j'ai aimé ça pendant un moment. Et donc, en fermant la galerie, j'ai eu l'opportunité de... Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, guide conférencière, c'était fini pour moi. J'avais envie d'évoluer. J'avais fait un peu de communication. Je me suis dit, les études en sciences de l'info, comme j'ai regardé, Montpellier proposait un master communication publique, associative et culturelle. J'ai foncé, j'ai fait une candidature. Ils m'ont accepté en master 2 et c'était parti.
Donc, vous avez côtoyé des jeunes gens de 20 ans. Je dis ça parce que j'ai une amie qui est en train de vivre ça.
C'est génial.
Bon, voilà, donc ça, c'est...
J'ai rajeuni. En fait, j'ai des camarades et j'ai des amis maintenant, parce que certains sont devenus des amis qui ont l'âge de mes enfants. On n'a pas du tout le même rapport, mais c'est très sympa. Et à la suite du master, j'ai cherché du travail. On était en plein confinement, ce n'était pas évident. Je me suis inventé un travail de consultante, justement, auprès des collectivités par rapport aux productions audiovisuelles. J'ai fait quelques mois comme chargée de mission à la région, tout en préparant un projet de thèse toujours autour de ce thème des séries.
Qui est le prolongement de
mon travail de master. Voilà. Et donc, depuis octobre cette année, j'ai obtenu un financement par la région et je fais cette thèse.
Bon, il va falloir vous réinviter dans quelques temps.
C'est ça.
Alors, un mot d'abord sur le choix du sujet. Parce que dans cette curiosité pour ce qui se passe, hein, dans les formes, je dirais, urbaines, les formes d'expression publique. Vous avez choisi un sujet. Donc,
j'ai choisi un sujet. Ce
n'est pas le fait du hasard.
Ce n'est pas totalement le fait du hasard, mais c'est un peu un truc... Comment vous dire ? En fait, j'aurais pu choisir des sujets sur la médiation culturelle, sur des choses où il y avait beaucoup de propositions dans ce sens-là. Tu as fait ça toute ta vie, on va essayer de vraiment creuser totalement autre chose. La presse, les médias, c'était aussi parmi les possibilités, m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, mais pourquoi pas voir la médiatisation du territoire, finalement, par autre chose que les médias presse, mais par ce média qui est la production audiovisuelle. Et j'avais commencé, comme beaucoup de Montpelliérains, à m'intéresser à Un si grand soleil. Je voulais voir comment, justement, Montpellier rendait dans la série. Bien sûr, je me suis laissée avoir. J'ai continué à regarder cette série. C'est la première fois que je regardais une série de ce type, soap, etc., feuille tournante quotidienne. Et j'ai vu qu'il y avait un groupe de chercheurs d'Infocom à Montpellier, les sciences d'information et de communication, qui travaillaient sur ces sujets. Et j'ai dit, allez.
Allons-y.
J'ai rencontré en plus la directrice, enfin la personne qui allait diriger ce mémoire, avec qui j'ai eu un super contact et une super envie de travailler. On était toutes les deux en phase. Et voilà. C'est arrivé comme ça. Et je me suis régalée à explorer ce nouveau domaine que je ne connaissais pas du tout. Le monde audiovisuel m'était inconnu pratiquement.
Donc, le choix du sujet, alors ensuite, bon, il faut cerner l'objet de la recherche. Oui. Bon, vous pouvez nous le rappeler, là, comment vous l'avez défini. On verra ensuite quel résultat ça a donné à l'arrivée de ces travaux de recherche.
Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est le territoire. C'est Montpellier, en fait. Voilà. On en revient toujours à cet amour inconditionnel pour ma ville et cette envie de voir comment, justement, la ville était représentée, finalement, dans la série. Donc, pour voir aussi comment la ville elle-même, la métropole, accueillait ces productions, donc Un si grand soleil et d'autres, voir comment en fait se faisait ce travail de collaboration finalement entre les acteurs du territoire des collectivités et les acteurs de la production audiovisuelle. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée et c'est d'ailleurs là-dessus que je poursuis un travail de recherche.
Et ça va être bien sûr l'objet de la suite de notre entretien. Alors, allons dans le vif du sujet. Pourquoi France 2 et bon, la production qui a pris en charge ce projet a choisi Montpellier. Quelles sont, je dirais, les raisons principales? Il y en a de divers ordres, et vous les détaillez dans votre travail, qui expliquent ce choix. Et choix qui, d'ailleurs, a été depuis confirmé, parce qu'après tout, ça pouvait tourner court.
Tout à fait. Et ça se prolonge et ça s'ancre encore plus. En fait, d'après les échanges que j'ai pu avoir, les entretiens avec des membres de la production et avec le bureau des tournages de Montpellier, il y a plusieurs éléments. Il y a, c'était vraiment une volonté de France Télé de créer un programme totalement interne, sans faire appel à des... Enfin, acheter des programmes à des productions extérieures. Donc, il a fallu effectivement trouver le lieu où ancrer cette nouvelle série quotidienne.
Oui, ça, c'était le choix d'une...
De la prod.
Voilà.
Enfin, de la chaîne, voilà, de France Télé.
Voilà. D'investir dans des productions réalisées, financées par la chaîne.
C'est ça.
Et donc, avec les incidences que ça a sur la manière dont les tournages sont préparés et réalisés.
Tout à fait. Il a fallu trouver un lieu pour ancrer cette première série quotidienne France Télé. Et il y a eu plusieurs... Ils ont exploré le territoire. Montpellier a été rapidement retenu pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à son climat, comme il voulait faire une série de grande qualité au niveau de l'image, il fallait pouvoir tourner beaucoup en extérieur, en décor réel. Et donc, un climat favorable permet d'être plus souvent dehors sans que ça pose de problèmes logistiques. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'ils cherchaient à avoir une image un peu sud, Californie à la française, avec une ville très dynamique, avec des paysages très variés. Donc, on a la mer, on a l'arrière-pays, comme je disais tout à l'heure. On a cette ville ancienne avec toutes ces différents quartiers avec chacun leurs caractéristiques. Et on a cette ville contemporaine qui continue à évoluer. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce qu'on voit l'évolution de la ville dans la série aussi. Et donc voilà, Montpellier a été, en termes de décor, etc., un lieu qui les a attirés. Et puis, suite à ça, il y avait aussi la volonté politique des instances territoriales et de la région et de la métropole, eh bien, de faire venir cette série. Et donc, ils ont vraiment déroulé le tapis rouge. Et il se trouve que Montpellier est une des rares villes en France, en plus donc de l'agence régionale Occitanie Film, hein, qui est de la commission du film, qui elle existe un peu dans toutes les régions. Montpellier est une ville qui dispose elle-même d'un bureau d'accueil des tournages.
Alors, il faut expliquer en deux mots ce que c'est.
Vous l'avez évoqué. Bien sûr. Voilà. Je vais expliquer.
Bon, dirigé par Sophie Ménanto, qui a été une de vos interlocutrices de
premier
rang.
Qui est toujours. Donc en fait, ce bureau d'accueil des tournages, c'est un service d'abord qui était de la ville de Montpellier, qui est maintenant de la métropole, qui va déjà instruire tous les dossiers de demande de tournage qui arrivent. Donc c'est la porte d'entrée unique en fait des propositions des productions. Une fois que les dossiers sont examinés, qu'on voit la faisabilité, l'intérêt pour le territoire de les accueillir, eh bien, ils vont donner un accord. Et à partir de là, la mise en place du projet va être accompagnée de A à Z par ce bureau des tournages. Donc, au départ, il n'était que deux. Il a été créé en 2011, ce qui est quand même très ancien. Aujourd'hui, il y a 6 personnes dans le service.
Oui. Beaucoup de formes d'aide, en
beaucoup de formes d'aide. Il y a notamment donc 3 régisseurs qui sont vraiment, eux, attachés, enfin, les membres de ce bureau des tournages qui est inclus dans un service qui s'occupe du cinéma, de l'audiovisuel et d'une partie des industries culturelles et créatives. Et donc, ces 3 régisseurs sont vraiment, eux, qui travaillent sur le territoire en collaboration avec les productions et qui vont faire le lien entre les demandes spécifique logistique des productions, c'est-à-dire quand une équipe de tournage se déplace, c'est 40-60 personnes avec des camions à garer, un catering, donc une cantine à installer quelque part, bloquer certaines rues, donc il faut faire appel à la police municipale, au service de la voirie, au service des eaux, des fontaines, pour arrêter une fontaine ou la mettre en route, l'éclairage municipal, enfin l'éclairage public, etc. Donc en fait, ils coordonnent tout ça. La production se contente de faire une demande de tournage sur le territoire et le BAT s'occupe de tout et sans faire payer de redevances. C'est-à-dire que ça aussi, c'est la gratuité de l'accès à l'espace public. Hein, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'attirer les productions puisque ça fait un coût en moins. Si on devait payer une redevance partout sur l'espace public.
Alors, il y a également la facilitation pour trouver des compétences techniques ou artistiques, c'est-à-dire des professionnels.
Tout à fait.
Des gens de l'univers, de l'audiovisuel, du théâtre, qu'ils soient techniciens ou artistes.
Absolument.
Et le bureau d'accueil des tournages aussi facilite la recherche de ces collaborations.
Il accompagne un petit peu. Alors ça, c'est plus peut-être le travail d'Occitanie Film.
Oui.
Mais le bureau des tournages participe également à cela. Et c'est vrai que l'installation de ces séries quotidiennes, parce que la particularité quand même de notre territoire, alors Montpellier, métropole certes, mais l'ex-Languedoc-Roussillon, on va dire, hein, cette partie-là de l'Occitanie, c'est d'avoir aujourd'hui 3 séries quotidiennes qui sont tournées. Donc, séries quotidiennes, ça veut dire 5 épisodes diffusés par semaine, 5 épisodes à écrire, tourner, post-produire par semaine. Et tout ça sur un territoire qui s'étend sur une heure, en fait, de déplacement entre Sète et Saint-Laurent-des-Gousses dans le Gard, avec Montpellier au milieu.
Sur Pic-Saint-Loup au nord.
Alors, Pic-Saint-Loup au nord, voilà, on a quand même...
Les étangs, on voit les étangs.
On voit tout ça, tout à fait. Et donc, rien que le fait d'avoir ces 3 séries quotidiennes dans ce petit territoire, eh bien, ça permet d'avoir sur place des compétences qui s'installent, qui s'ancrent, c'est-à-dire beaucoup de techniciens s'installent ici et donc ont ces débouchés de travail, puisqu'ils travaillent tous sous la forme de l'intermittence. Donc, la plupart font des sessions de tournage dans chacune de ces séries et dans les autres productions qui arrivent aussi sur le territoire, séries qui était saisonnière. On a eu Candice Renoir, Tandem, il y a la nouvelle série Les Pénacs de France TV Studio aussi là, qui s'installe, etc., etc. Donc tout ça fait qu'il y a un vivier et il y a un écosystème qui se développe et un cercle vertueux. Et il y a en plus donc, toutes ces écoles aussi qui prennent de l'ampleur et qui sont les viviers des futurs professionnels qui vont pouvoir aller travailler vers ces productions. Mais aussi, les productions sont les lieux de stage pour permettre à ces professionnels d'avoir vraiment une expérience. Voilà. C'est vraiment passionnant de voir comment tout ça évolue. Et donc, les studios de Vandargues, qui étaient... il y avait deux studios de 1300 m² et la post-production se faisait à Paris.
Créé par France Télévisions.
Créé par France Télé à Vandargues, hein, pour le projet Ainsi Grand Soleil. Aujourd'hui, on a quatre studios, trois de 1200 m² et un de 600 m², qui peuvent être... donc, certains sont dévolus à Ainsi Grand Soleil et les autres peuvent être... investis par d'autres productions. Et d'ailleurs, les Pénacs se sont tournés à Montpellier. Ils louent pour des projets à des grosses productions, y compris pour les plateformes, etc. Donc, ça, on a un outil là qui est énorme. Et puis, Montpellier se développe aussi avec les futurs Peak Studios, avec un énorme backlot sur l'ancien site Schneider dans la région. Enfin, c'est énorme.
Très bien. Alors, on va quand même parler, parce que le temps passe, sur cette... notion originelle, puisque ça, oui. C'est le projet de croisement entre le Montpellier imaginaire et le Montpellier réel. Montpellier réel, notamment, ce que vous avez décrit dans l'aide apportée par le bureau d'accueil des tournages. Alors, parlons du générique. Alors, donc, ça vous est en train de décomposer le générique. Oui. 39 secondes, 16 brèves séquences. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça montre de ce territoire? Et en quoi, bon, on pourra en juger, ou ceux qui connaissent... la série le savent, ça, voilà. Quel Montpellier ça raconte et comment la production, pour le coup, sans consigne particulière venant des acteurs locaux, disons-le au passage, a montré un certain Montpellier.
Alors, c'est un Montpellier un petit peu idéalisé, pas se cacher, hein, on n'est pas là pour montrer, effectivement, d'ailleurs, certains Montpelliérains reprochent à la série d'être un peu trop... de montrer un peu trop le Montpellier positif, de ne pas montrer les mauvais... Alors que c'est faux, il y a quand même quelques arches narratives qui se déroulent dans les quartiers un peu moins favorisés, avec une population un peu moins...
Quelques séquences à la Paillade, notamment.
À la Paillade, ou dans le Parc à Ballons.
C'est très minoritaire, quand même.
Oui, bien sûr, il faut faire rêver, c'est quand même le but du jeu d'un programme fictionnel. Mais quand même, donc Montpellier, dans la série Ainsi qu'en soleil, se situe à 5 minutes de la plage.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, on sort du lycée.
On sort du lycée, on monte dans le tram.
Et on arrive direct à la plage.
À la Grande Motte ou à Palavas. ça, c'est les raccourcis. C'est les Better Than Life de la fiction. C'est-à-dire que Montpellier aimerait bien. C'était le rêve de Fraîche, d'ailleurs, qui a été finalement réalisé par la production.
Oui, de faire de Montpellier.
Faire de Montpellier.
Le temps où l'ancien maire de Montpellier voyait un port de plaisance... à 5 minutes de la comédie, bon, on n'y est pas tout à fait.
On n'en est pas là, mais sauf dans la série.
Alors donc, une série d'images que vous avez décortiquées, qui montrent Art de Vigne, du dynamisme, vous l'avez dit, la jeunesse, la modernité, mais le patrimoine ancien, la diversité, y compris des habitants, les aspects culturels et esthétiques, tout ça en 39 secondes. Et donc, ça, bien sûr, ça projette quelque chose très, très important. Et alors, ce balancement, ou ces allers-retours entre le Montpellier imaginaire de la série et le Montpellier réel, Olivier Sulzinger, le scénariste et producteur associé, vous l'a expliqué dans un long entretien. Et vous analysez un Montpellier territoire idéal, on va voir ce que c'est, et un Montpellier territoire idéalisé. Alors, racontez-nous là comment, dans votre analyse de ce que la série montre, comment ça se traduit et comment ces deux approches, le territoire idéal et le territoire idéalisé, comme vous l'avez déjà évoqué.
Alors, territoire idéal, parce qu'effectivement, il offre toutes ces caractéristiques qu'on a déjà racontées et citées. Et idéalisé, bien parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus au CSP+, on va aller voir plus des gens qui vivent dans des très belles villas, qui existent, c'est un fait, mais on va plus montrer cet aspect-là, des gens qui ont des très bonnes situations, des belles voitures... Alors, surtout des voitures qui sont sponsorisées pour la série. Mais de temps en temps, il y a des jolis bolides, des villas avec piscine, etc. Des beaux endroits, des beaux restaurants. mise en valeur de quartiers contemporains avec la belle architecture, des grands noms qui sont venus faire ces gestes architecturaux dans la ville. Voilà, après, on va moins montrer, effectivement, les classes sociales plus modestes et les problèmes. Mais il y a quand même, c'est quand même une série aussi qui évoque toutes les grandes questions de la société contemporaine. Et donc là, par exemple, en ce moment, il y a une arche un peu difficile hein, qui est diffusée sur un viol à l'occasion d'un tournage d'un film.
Oui.
Voilà, un film pornographique où la jeune femme se fait avoir et vit quelque chose d'absolument abominable. Alors là, voilà, il y a quand même des moments proches d'une réalité moins idéalisée.
Il y a eu des épisodes sur trafic de drogue dans un quartier populaire, bien sûr. C'est pas complètement bisounours, quoi,
Non.
Alors, ceci dit, bon, vous le dites dans votre travail, quand la série médiatise une certaine ligne de territoire qui est plus symbolique que réelle. On voit bien ce cocktail où il faut quand même montrer quelque chose qui a les apparences du réel ou de la véracité, mais qui n'est pas tout à fait, bon, ce qui est bien normal, de quelque chose qui est une œuvre de fiction en même temps. Hein, c'est pas un reportage.
Il faut faire venir le téléspectateur quotidiennement. Donc, il faut lui montrer des choses qu'il a envie de voir. Et donc, voilà, on préfère peut-être voir la vie un peu idéalisée que... Il faut qu'il y ait un peu de tout. En fait, c'est ça le principe d'une quotidienne aussi. C'est avoir vraiment énormément d'ingrédients différents pour... Et de terminer par des suspens et de garder l'attention du téléspectateur. Il faut que ça dure dans le temps.
Alors, vous êtes penché sur les téléspectateurs. Alors, oui. Faute de faire une enquête complète, une étude quantitative, vous êtes attaché au qualitatif, notamment les amateurs, les fans qui se retrouvent sur Facebook. Dites-nous un peu qui sont ces gens-là et quelle forme prend leur intérêt ou leur attachement même, leur fidélité.
Alors, la plupart des gens qui vont dans ces groupes sur les réseaux sociaux, ce sont des fans, hein, c'est-à-dire absolus, et ils vont beaucoup plus commenter. En fait, ils s'intéressent peu au territoire. La plupart, d'ailleurs, certains ne l'identifient même pas. Ils savent que c'est le sud de la France. Bon, la plupart quand même comprennent que c'est Montpellier, mais c'est pas ça pour eux qui est important. Ils s'attachent aux personnages.
Ce
sont les personnages, et d'ailleurs, ils assimilent totalement les comédiens à leur rôle. Et c'est d'ailleurs troublant quand ils croisent les comédiens et qu'ils les appellent par le nom du personnage systématiquement. Ça, je l'ai vu notamment à Saint-Laurent-des-Gouzes, qui est un territoire beaucoup plus petit, où les fans donc, sont tous centrés sur l'unique pratiquement décor de la série. Et là, voilà, ils interpellent les comédiens par leur nom de personnage.
Voilà. Alors ça, c'est des phénomènes qui se produisent
partout. Mais alors après... la population Facebook aujourd'hui, et notamment pour les fans de séries, c'est surtout des femmes et d'un certain âge. C'est pas représentatif de l'ensemble de l'audience de la série. Hein. C'est pour ça que ça, je le précise bien dans mon travail aussi. Hein. C'est un peu biaisé, on va dire.
Ça donne une idée quand même.
Ça donne une idée. Et d'ailleurs, ça se manifeste d'une certaine façon. C'est que l'Office de tourisme de Montpellier a mis en place des visites guidées. Et donc là, j'ai repris mon ancienne casquette.
Des lieux de tournage.
Des lieux de tournage au cœur de la série. Donc aujourd'hui, il y a deux versions. Il y a une dans les Cussons, une dans les quartiers contemporains. Et là, on reçoit des fans qui vont faire le déplacement spécifiquement, venir à Montpellier parce qu'ils sont fans de la série, qui savent qu'il y a ces visites guidées et qui vont aller à la recherche des endroits où ça tourne. Et à chaque fois, ils me demandent, mais aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que je peux les voir? Etc. Et là, l'objectif ultime, c'est de croiser un comédien dans la vraie vie.
Bien sûr. Alors, dernière question.
Oui.
Je suis désolée.
On a peu de temps.
La problématique que vous avez posée, vous dites que bon, la valorisation du territoire, réponse en demi-teinte, c'est-à-dire oui, mais vous pouvez en quelques mots nous dire voilà, à quelle conclusion vous êtes arrivé sur l'impact, sur l'attractivité, l'envie de se rendre à Montpellier que la série a engendré, ou pas tout à fait engendré pour le coup.
Alors, il y a 4 millions de téléspectateurs. Sur cet ensemble-là, il y a les fans qui ont des comportements de fans. Et eux vont effectivement s'arranger à un moment ou à un autre. En plus, on est une région touristique avec d'autres attraits, notamment la mer, etc. Donc, vont venir ici et en profiter pour aller découvrir le territoire, etc. Mais ce n'est pas non plus une attractivité. C'est pas un phénomène.
C'est pas massif.
C'est pas massif. Voilà, ça reste. Confidentiel, surtout que Montpellier est quand même un territoire très large et la série montre ce territoire très large, Montpellier, métropole et les environs. Et donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de lieux très identifiés, très récurrents au centre-ville, par
contrairement
exemple.
Contrairement à Marseille, avec...
avec cette place, voilà. Contrairement à Sète, avec le café Le Spoon, contrairement à Saint-Laurent-des-Gouzes, avec le château. Voilà, Montpellier, ça reste très diffus, mais on sait, par les fréquentations de l'Office de tourisme, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent ici pour, parce qu'ils ont découvert la ville dans la série, qu'ils ont envie de venir.
À eux maintenant de découvrir le Montpellier réel et de les accueillir comme
absolument,
c'est souhaitable.
Absolument.
Merci beaucoup Nathalie
Merci
Sévran.
À vous pour votre accueil, au revoir.
Vous êtes née dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.